Voilà, est-ce qu'on m'entend bien? Ça va? Alors, bonjour à tous. Et je voudrais ce matin partager un passage des Actes. Il s'agit de la rencontre de Barnabas et de Saul. Et on va voir comment Barnabas a conduit Saul aux apôtres. Alors, avant de lire cette parole, hein, acte 9, les versets 23 à 29, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, voilà, nous voulons nous placer devant toi et nous te prions de renouveler en nous un cœur bien disposé pour écouter ce que tu as à nous dire par ton Esprit Saint. Oui Seigneur, dispose nos cœurs. Amen. Alors, acte 9, les versets 23 à 29. Et je vais même lire à partir du verset 22. Comme Saul se fortifiait de plus en plus, il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qu'il lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Jusqu'ici notre lecture. Lorsque j'entends parfois un journaliste à la radio interroger un artiste qui a réussi, qu'il soit acteur, chanteur, écrivain, et lui demander ce qui, à son avis, a été décisif dans cette réussite, il n'est pas rare que cet artiste réponde quelque chose comme « Eh bien, j'ai eu de la chance d'avoir des personnes formidables sur ma route qui ont cru en moi et qui m'ont introduit dans des mondes auxquels je n'avais pas accès. » Eh bien, justement, c'est sur une de ces rencontres décisives que nous allons méditer ce matin, celle de Saul, il n'est pas encore appelé Paul, son nom romain, celle de Saul avec Barnabas. Alors je vous propose trois temps. Le premier, c'est découvrir un peu qui étaient Barnabas et Saul. Le deuxième, c'est voir comment s'est passée cette rencontre de Saul et Barnabas en l'an 33 ou 34 de notre ère, à Jérusalem, au sein de cet empire romain. Et dans un troisième temps, je voudrais examiner les fruits qu'a produit cette rencontre. Alors, premièrement, qui sont Barnabas et Saul? Barnabas s'appelle en fait Joseph. C'est un juif de la tribu de Lévi. Et les Lévites formaient une tribu à part puisque Dieu ne leur avait pas donné de territoire. Ils étaient dès l'origine dispersés dans tout le pays d'Israël et consacrés au service de Dieu. Ils assistaient tout d'abord les prêtres pour les sacrifices. Ils venaient donc à Jérusalem selon un tour de rôle. Mais ils étaient aussi gardiens des portes du temple, scribes. Ils prenaient soin des écritures, les recopiaient, les étudiaient. Ils étaient aussi juges et musiciens. Alors même si au temps de Jésus, certains avaient probablement délaissé leurs prérogatives, on peut supposer que beaucoup avaient conservé une inclinaison pour le service de Dieu et une aisance dans la gestion des assemblées de fidèles. Barnabas, assurément, était de cette veine. Ainsi, au premier jour de l'Église, née à Jérusalem après la Pentecôte, il vend un champ pour subvenir aux besoins des croyants. Les croyants ont des besoins, lui a un champ, il le vend, il donne la somme aux apôtres. Barnabas est originaire de Chypre, c'est donc un juif de l'étranger, comme il y a des Français de l'étranger, des Français qui vivent à l'étranger. Lui était un juif de l'étranger, quelqu'un qui a certainement plus de recul sur sa pratique de la religion que ceux qui sont restés au pays, quelqu'un qui a appris à vivre avec une population de culture différente au sein de l'Empire romain. Barnabas est aussi par sa parenté lié au mouvement qui a suivi Jésus dans son ministère terrestre. Son cousin ou son neveu, c'est Marc, qui a rédigé l'évangile du même nom. La mère de ce dernier est Marie, celle chez qui l'apôtre Paul s'est rendu en premier lorsqu'il a été libéré de prison par un ange. Et de fait, Barnabas est proche des 12 apôtres. Ce sont eux qui l'ont surnommé Barabbas, qui veut dire « fils d'exhortation », parce qu'il n'a sans doute pas son pareil pour exhorter, pour adresser la parole qui édifie, qui encourage, la parole inspirée qui console, relève, affermit. Voilà donc qui est Barnabas, tout dévoué au service non plus du temple, mais de cette Église de Jésus-Christ qui, à cette époque, se développe à toute vitesse. Et Saul. Saul est un homme jeune, un juif, lui aussi, mais de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin a connu l'exil, comme la tribu de Juda, ainsi que le retour en Palestine avec Esdras. Une épreuve qui a marqué des générations et qui a conduit beaucoup à s'organiser pour se garder de transgresser les commandements de Dieu et de se compromettre avec les païens, afin de ne pas revivre ce traumatisme. Saul vient de Tarse, où il a grandi, une ville de Cilicie, au sud de l'actuelle Turquie. Elle est à cette époque une ville libre, c'est-à-dire qu'elle fait partie à part entière de l'Empire romain, elle ne paie pas d'impôts. C'est donc une ville qui profite à plein de l'essor de l'Empire romain. Le père de Saul est citoyen romain, ce qui constitue un passeport et une protection très appréciables. Il n'en est pas moins pharisien, membre donc de cette secte à la religiosité extrémiste. Saul épouse pleinement les convictions paternelles. Il vient se former à Jérusalem auprès de Gamaliel, pharisien et docteur de la loi, homme très considéré parmi les Juifs. Il se rallie très tôt aux opposants à Jésus. Il est présent lors de la lapidation d'Étienne et il l'approuve. Il traque, il terrorise les chrétiens. Deux mots le caractérisent en acte 9 au verset 1. Saul respirant la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus. Voilà ce que Paul est déjà si jeune, un homme qui respire la menace et le meurtre. Mais il va y avoir la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas qui va l'arrêter net dans cette fuite en avant. Une illumination éclatante qui va le terroriser, lui le persécuteur, et l'amener à une conversion radicale, au baptême juste après. Et le voilà, sans transition ou presque, prédicateur de l'Évangile à Damas. Voici donc ces deux hommes que tant de choses opposent, l'un plus âgé, pondéré, apaisé, ayant naturellement épousé la voie de Jésus, dans la continuité de sa vie de lévite, l'autre jeune, radical, furieux, mais dont la rencontre avec Jésus a Christ dans leur vie, tout comme lui l'a rencontré. Mais hélas, cet accueil, cette fraternité, il ne les trouve pas. les disciples se méfient de lui. Ils ne voient pas le sol transformé par sa rencontre avec Christ. Ils ne voient que le sol d'avant, celui qui persécutait l'Église avec un acharnement terrifiant. Paul fait des efforts. Le texte nous dit qu'il tâcha de se joindre aux disciples. Mais il n'y arrive pas. Il y a comme une barrière invisible entre lui et les autres disciples. Acte 4, 32 nous dit pourtant que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, mais assurément à ce moment-là, Saul ne fait pas partie de cette multitude. Mais c'est là que Barnabas intervient. Le texte nous dit au chapitre 9, verset 27, que l'ayant pris avec lui, il le conduisit vers les apôtres. Les autres disciples ont peur de lui, mais lui, Barnabas, le prend avec lui. C'est un risque, mais pas pour Barnabas, car lui sait la transformation qui s'est opérée dans la vie de cet homme. Saul, qui deviendra Paul en version romaine, écrira en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est bien ce que Barnabas a perçu dans la vie de Saul. Saul est une nouvelle créature et Barnabas l'accueille comme tel. Et en instruction, la plupart des gens de sa génération réalisent sous le projecteur accusateur de Jésus qu'il a tout faux. Au travers des chrétiens, c'est Jésus, le Messie, que tous les Juifs attendent qu'il persécute. Alors la réponse de Saul, vaincu, est la suivante : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? D'une vie où il suivait sa propre voie, selon ses propres conceptions, celle héritée de sa famille, Saul a basculé dans une vie tout entière au service de Christ. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Mais Saul a non seulement fait cette rencontre forte avec Jésus, mais après avoir été baptisé par Ananias, il a reconnu publiquement Jésus comme le Fils de Dieu, en se mettant à prêcher dans les synagogues. Oui, il y avait cette possibilité dans les synagogues d'intervenir après la lecture des textes. Et donc, tous ceux qui le voulaient pouvaient prêcher et Saul s'est saisi de ces occasions. C'est donc ce face-à-face avec Jésus et cette prédication publique que Barnabas met en avant pour convaincre les apôtres. Il n'y a pas besoin de pénitence pour sa vie passée. Il n'y a pas besoin d'examen minutieux sur sa nouvelle vie de chrétien. Il n'y a pas non plus besoin de mise à l'épreuve. Saul, à partir de ce moment, est avec eux et peut évoluer librement parmi les frères. Et Saul peut alors exprimer tout son talent pour réfuter les discours des Juifs qui visent à disqualifier l'Évangile. Oui, Saul peut désormais mettre en œuvre ses capacités au service du royaume. Il peut désormais obéir à l'appel du Seigneur, à porter son nom devant les nations. Et c'est ce qu'il commence à faire en discutant avec les hellénistes, ces juifs de la diaspora comme lui. Tout cela parce que Saul a été accepté dans la communauté de Jérusalem, sur la seule base de sa conversion et de son témoignage public. Aujourd'hui encore, Dieu cherche et appelle des hommes et des femmes comme Saul, pour défendre la foi chrétienne, bien sûr, pour s'élever contre ces systèmes de pensée d'un monde qui se serait auto-construit, qui pourrait s'auto-gérer et même s'auto-améliorer sans Dieu, par la seule bonne volonté du genre humain. Oui, nous avons besoin de prédicateurs, de débatteurs pour abattre ces géants, et il y en a d'autres, je pense à l'islam. Mais Dieu cherche et appelle aussi des hommes et des femmes avec des dons, tous différents, pour le servir chacun d'une façon particulière. ne leur fermons pas la porte, mais comme Barnabas, sachant les reconnaître, les accueillir et leur permettre d'exercer leur talent. Ce passage nous a montré la prévenance de Barnabas à l'égard de Saul et le bien qui en a résulté pour Saul lui-même, mais aussi pour l'Église. Et oui, parce qu'après ces événements et le départ de Saul pour Tarse, car sa vie était une nouvelle fois menacée, il est dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, on peut peut-être penser que l'Église était en paix parce que Saul était parti, mais je pense que c'est aussi comme si les démonstrations de Paul avaient émoussé les armes et les velléités des persécuteurs de tout le pays. Mais voilà, Saul est donc reparti, et les chrétiens de Jérusalem ont peut-être eu un pincement au cœur en se disant « Mais Saul nous était devenu familier et son zèle était précieux, mais le voilà parti. » Et quand la même chose nous arrive, qu'un frère ou qu'une sœur ou qu'une famille nous quitte pour de nouveaux horizons, peut-être comme Saul pour un ministère plus riche et plus large, nous pouvons nous aussi avoir des états d'âme, nous dire que nous restons là avec nos balais, nos plats à réchauffer, nos coups de peinture à donner, notre sono à réparer. Ben, elle marche, mais... Avec nos néons à changer, nos cantiques à récupérer pour la réunion. Et on peut alors se dire à quoi bon. Mais je voudrais justement qu'on réfléchisse maintenant à l'impact que ces événements, que cette main secourable de Barnabas et des apôtres ont eu sur la vie de Saul. Et c'est mon troisième point, les fruits de la rencontre. En fait, il semble que Saul a appris de Barnabas, non de la doctrine que Saul a reçue directement de Dieu, mais dans la manière d'être et de faire. Vous savez, quand on commence une carrière, on apprend beaucoup de son premier emploi. Dans mon premier emploi en CDI, on prenait toujours 3 semaines de vacances en août. C'était la règle, l'entreprise fermée. Depuis 20 ans, je suis dans une autre entreprise où je peux prendre mes vacances quand je veux, mais je prends toujours mes 3 semaines en août. J'ai été marqué par ma première entreprise. Et il semble qu'il en ait été de même pour Saul au contact de Barnabas. Ce n'est bien sûr pas parce que les mêmes traits se retrouvent chez deux personnes différentes que l'on s'est forcément inspiré de l'autre, mais néanmoins, si on remarque une accumulation de façons de faire similaires chez ces deux personnes, on va peut-être se dire « Tiens, c'est étrange, c'est peut-être son fils, c'est peut-être son cousin, c'est peut-être son frère. » Eh bien, c'est bien ce que l'on pourrait se dire pour Saul et Barnabas. Et je relèverai 3 similitudes. La première, c'est la gestion de l'argent. D'abord, Barnabas utilisait l'argent avec générosité. Barnabas était généreux, désintéressé. Il s'est employé à Antioche, résolu d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Et on peut penser que Barnabas était bien d'accord, sinon, et qu'il avait appuyé cette démarche. Il est dit en acte 11, verset 24, Barnabas était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Saul, lui, nous l'avons vu respirer avant sa conversion la menace et le meurtre. Mais des années plus tard, ses lettres témoignent de la transformation de son caractère et de l'importance qu'il attache à la douceur. Colossiens 3:12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 4:6, que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tite 3, 1, 2, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur, attaché à la grâce de Dieu. Et nous lisons encore en Actes 14, 21, qu'ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. L'exhortation dans la Bible, ce ne sont pas des menaces, mais c'est un encouragement à faire ce qui est bien, à demeurer fidèle à Dieu. Et c'est essentiel. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres, et l'apôtre Paul l'a fait abondamment. Je ne lis que quelques versets, Romains 12:1, « Je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice. » Colossiens 3:10, « Exhortez-vous les uns les autres. » 1 Thessaloniciens 5, « Exhortez-vous réciproquement. » 2 Timothée 1:6, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. » Et encore une fois, avec Barnabas, aussi en accueillant Paul et en étant son mentor à Jérusalem, Barnabas aura joué, j'en suis convaincu, un rôle essentiel dans le ministère de Paul, dans la propagation de l'Évangile dans le monde romain et dans le style des lettres de l'apôtre qui nous sont parvenues. Eh bien, nous aussi, dans notre Église, nous pouvons accueillir et guider tous ceux que le Seigneur nous envoie et dont il a touché le cœur. Nous pouvons le faire avec générosité, avec humilité, avec passion, avec compassion. Les fruits appartiennent au Seigneur, mais s'il nous est donné d'en voir quelques-uns, sachons nous en réjouir. En conclusion, je dirais que la rencontre de Saul et de Barnabas était improbable, et pourtant elle a eu lieu. Alors je termine avec un témoignage, celle d'une rencontre tout aussi improbable que j'ai eue avec mon cousin du Suriname. Quand j'ai rencontré mon cousin Léo, c'était aux États-Unis, je passais voir son père qui avait eu un grave accident de voiture et il était là. Moi, je devais avoir 25-30 ans et lui 40 ans. Et nous avons échangé sur la foi. Et il m'a dit, viens me voir chez moi au Suriname. Et c'est ce que j'ai fait l'année suivante. Il menait une vie paisible de directeur des écoles et de pasteur par intérim de son église, avec sa femme et ses 4 enfants. Mais au fur et à mesure qu'il me faisait visiter sa famille et les gens de son entourage, à mesure qu'il me faisait participer aux activités de l'église, j'ai découvert un monde passionnant, vivant, plein de surprises, de combats, de victoires et de revers. Le monde du royaume de Dieu en marche. Les études bibliques, les cultes en famille ou en communauté, les témoignages, tout était différent pour moi et témoignait d'une vie spirituelle que je ne soupçonnais pas. Léo m'a ouvert à cela. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il était attentif à ce que ses projets, plus ou moins ambitieux, s'inscrivent bien dans le plan de Dieu pour son Église et son union d'Église. Je suis rentré en France. Nous nous sommes perdus de vue depuis. J'ai poursuivi ma vie modeste de chrétien en France, avec de belles rencontres aussi. Mais j'ai gardé une chose de ce séjour, c'est que plus on s'y investit et plus on découvre que la vie de Christ est riche et passionnante. Comme mon cousin, en me consacrant un peu de son temps, m'a fait la courte échelle pour grandir un peu dans ce royaume de Dieu, comme Barnabas a pris avec lui Paul pour l'amener aux apôtres et l'éclairer dans son ministère, soyons attentifs à ceux qui, ayant rencontré Christ, cherchent maintenant les disciples, c'est-à-dire nous cherchent. Le temps qu'on leur consacrera ne sera pas du temps perdu, mais un bon investissement dans le royaume de Dieu. Amen.